cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Paul Badouraskoda.
Bonjour Marc Zisman.
Le label Transart publie un album, un nouvel album, mais un album qui compile des enregistrements qui datent de 1965, 1970, 1974, 1983 également.
Oui.
Et un album composé d'ailleurs de compositeurs parfois peut-être inattendus concernant votre nom, même si vous avez déjà joué auparavant.
Oui.
On y croise du Berg, du Ravel. Comment s'est fait justement la sélection de tous ces extraits, et également comment vous voyez votre piano, puisqu'en fait votre piano sur cet album s'étale sur 20 années. Comment vous avez fait cette sélection?
Bon, tout d'abord, j'ai choisi un programme où on ne m'attend pas, mais ce sont tous les trois les compositeurs que j'ai aimés depuis ma jeunesse, Chopin depuis mon enfance, bien sûr, Ravel, ça venait beaucoup plus tard, à l'âge de 18 ans, j'étais adolescent, et j'ai fait cette connaissance au Vienne de l'après-guerre, où cette musique était inconnue et aussi introuvable en ce qui concerne les partitions. La première raison, il m'a fallu jouer les jeux d'eau de Ravel, parce que c'était un des morceaux imposés au concours de Genève où j'ai participé, sans gagner, mais ça ne fait rien. C'était une riche expérience, et surtout la rencontre avec ce grand compositeur, jusqu'ici presque inconnu à moi, et c'était un coup de foudre. Je suis tombé amoureux de la musique de Ravel, et depuis ça, je l'ai joué jusqu'aux dernières années de ma vie.
D'ailleurs, vous dites quelque chose d'intéressant dans les notes de pochette sur Ravel. Vous dites que vous le jouiez tant que les organisateurs... ça veut dire que c'était un compositeur au début qui n'était pas évident à imposer dans les récitals, parfois?
C'est vrai, parce qu'on m'a reconnu comme spécialiste de la musique classique de Vienne, surtout de Mozart, Beethoven, Schubert. Et... vu ça, les organisateurs me demandaient toujours, disons, une intégrale des sonates de Mozart, ce que j'ai fait dans l'année Mozart à la salle Gaveau en 91. Et Beethoven, j'ai fait l'intégrale un peu avant, aussi une année Beethoven. Mais j'ai choisi ça parce que j'ai un énorme archif de mes enregistrements, live comme on dit, c'est-à-dire enregistré dans les concerts, sans montage, et j'y tiens beaucoup, c'est un défi particulier, parce qu'on n'a pas la possibilité de rejouer une chose. Et de mon archif, qui comprend plus que 1000 bandes et aussi autres moyens d'enregistrement, d'abord les bandes magnétophoniques, puis les cassettes, et enfin les CD ou les DVD. De ça, j'ai choisi ce qui me paraît peut-être un côté de mon art qui vaut la peine. Et comme vous dites, de mon passé, mais ça va jusqu'au présent.
Justement, quand vous réécoutez vos enregistrements, votre piano des années 60, 70, comment vous le jugez? Quel juge vous êtes de votre propre musique comme ça, justement, en proposant un éventail sur une vingtaine d'années? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris en réécoutant ou au contraire
Mais bien sûr, c'est comme ça, oui. Naturellement, il y a des choses où je me dis, mais je n'avais pas encore la maturité ou la connaissance vraie de cette œuvre, parce que je suis toujours à la recherche de ce que j'appelle la vérité dans la musique, ce qui correspond à la volonté du compositeur et ce qui se communique le plus possible avec un public, et surtout je cherche l'émotion juste, que les gens soient touchés par cette musique. Et je trouvais ça, soit dans Ravel, bien sûr en Chopin, mais aussi dans cette première sonate d'Alban Berg, qui a, opus 1, une chose incroyable, qu'un compositeur si jeune atteint une maturité, une perfection de la forme et de l'expression comme dans cette sonate qui est un chef-d'œuvre. Or, mon attitude, parfois je suis surpris, je me dis, tiens, ce gosse a bien joué, et c'est un défi, je dois travailler pour avoir la même perfection. Et autrefois, ça arrive aussi que je dis, voilà, heureusement, aujourd'hui, je suis mieux capable de jouer cette œuvre. Il y a des œuvres qui sont un défi permanent pendant toute ma vie.
Pensez à quelle, auquel, par exemple?
La dernière sonate de Schubert. Celle-ci, je l'ai jouée depuis mon enfance, on peut dire, et je l'ai enregistrée, je crois, 5 ou 6 fois sur des pianos modernes, sur des pianos d'époque, et chaque fois, on m'a reconnu comme un des meilleurs interprètes de cette sonate, mais moi, je n'en étais jamais satisfait. Il y a un mystère, une expression libre dans Schubert et une communication directe de sa pensée et de son émotion qui n'était pas encore venue dans les anciens enregistrements, sauf peut-être un que j'avais fait il y a une trentaine d'années, pour Harmonic Records. Mais même ça, ça ne me plaît pas encore. C'est trop stable ou statique. Il manque ce souffle Schubert et je suis en train de la réenregistrer.
Vous avez prononcé la phrase tout à l'heure, la recherche de la vérité. Est-ce que pour vous, c'est la recherche de la vérité, c'est votre définition de l'interprète?
Oui, on peut dire que c'est mon interprétation de ce qu'est l'interprète. Et la vérité, notamment, est une chose particulière. D'abord, il faut connaître et reconnaître la volonté du compositeur. Là, pour moi, une chose qui m'aide beaucoup, c'est que je suis aussi compositeur moi-même, et surtout que j'ai une grande connaissance de la musique autour de 1800 jusqu'à 1900, aussi comme compositeur. Donc, d'abord, il faut connaître la volonté du compositeur, et puis, il faut essayer à la jouer tel qu'il le voulait. Et ça, c'est une chose très difficile parce que chaque compositeur a sa propre expression, sa propre sonorité, son propre piano ou orchestre ou quoi. Et je crois, au fur et à mesure que j'ai étudié les partitions, surtout les manuscrits des grands compositeurs et aussi des moins grands compositeurs, j'ai appris que chaque note a sa valeur, mais pas une valeur isolée, mais qui se doit rejoindre avec la note précédente, avec l'harmonie précédente et avec ça que suit. Ce qu'on appelle le fil, je ne trouve pas l'autre parole, c'est la chose qui va d'un bout à l'autre, et là je crois c'est un des secrets. Puis naturellement j'ai eu la chance de connaître des compositeurs encore vivants, heureusement, Et ça, c'était pour moi une des plus grandes joies quand j'étais reconnu par le compositeur lui-même qui me disait, voilà, par exemple, Franck Martin qui m'a tutoyé, mais Paul, tu as réussi à me convaincre de moi-même, tu le jouais d'une façon juste avec ton rythme, avec ta sonorité. Et ça m'a donné la plus grande satisfaction de ma vie.
Ce que vous venez de décrire, ce fil, comme vous avez dit, et
c'est fil conducteur, c'est ce que je voulais dire.
Ce rapport à la partition de ça, est-ce que c'est quelque chose qui vous a été transmis notamment par Edwin Fischer, ou c'est quelque chose que vous aviez déjà en vous?
Je crois que je l'avais déjà un peu en moi, mais c'était Edwin Fischer qui nous a montré ça, et aussi il détestait chaque outrance, exagération. Il se moquait quand on faisait une expression sentimentale qui ne correspondait pas à l'œuvre, un grand ritardando pas écrit dans la partition. Et cette reconnaissance, lui-même, dans ses écrits, mais aussi dans ses cours, il a insisté qu'on suit les indications du compositeur. Et il a dit... Le compositeur, c'est comme celui qui pose la loi. Et nous, nous sommes les juges qui interprètent la loi selon chaque occasion. Et c'est vrai, l'occasion change. Si j'ai un public d'enfants, par exemple, je ne m'incline pas pour faire la chose plus enfantine, mais je les traite comme des jeunes amis, je leur explique la musique, je dis que ça signifie pour moi que par exemple la marche turque, c'était mon premier succès dans ma vie, et chaque fois que je jouais, j'ai reçu du chocolat ou des bonbons d'une tante ou d'un oncle, et ça m'a beaucoup inspiré à jouer Mozart.
Quelle était sa personnalité, Edwin Fischer, au-delà de tout ce qu'il vous a transmis, etc., tout ce que vous venez de décrire, humainement, quelle personnalité c'était, en fait?
Oui, c'est l'humanité, juste humanisme, on peut dire aussi, qui était évidente chez lui. Déjà, quand on l'a vu, cet homme, avec cette tête beethovenienne, avec cette expression, et quand... Il a joué, même avant de se rapprocher au piano, on sentait déjà quelque chose viendrait. Et c'était pour moi un autre coup de foudre quand j'ai entendu la première fois Fischer dans un concert, que j'avais déjà connu, ce maître des enregistrements qu'il avait fait. Surtout, je l'admire n'importe dans quel style. On le connaît comme Mozartien, Beethovenien, mais Schumann et Brahms, là où il était le grand maître aussi. Et il disait lui-même, je suis un contemporain de Brahms, parce que quand Brahms est mort, j'avais 11 ans, et j'ai connu beaucoup de gens, de pianistes, de musiciens, de chefs d'orchestre, qui avait encore connu personnellement Brahms et son expression. Donc c'était une véritable leçon humaine, et il traitait tous les élèves avec respect, avec amour, dirais-je, mais pas avec une indulgence fausse. Il pouvait être très très exigeant, et on peut dire qu'il aimait les belles pianistes femmes. Là, il y a eu un peu de jalousie entre les femmes et les hommes quand le jeune Brendel était avec moi dans un cours de Fischer. Il se plaignait que Fischer donnait 10 minutes plus à une jeune fille sans talent qu'à un de nous deux.
Justement, si on prend cet exemple d'Edwin Fischer, dont vous étiez un jeune musicien en pleine formation, en pleine mutation, sur le rapport justement entre le maître et l'élève, entre comment on arrive justement à devenir, avoir sa propre personnalité, à couper le cordon, comme on dit, avec le maître. Est-ce que c'est quelque chose de facile? Est-ce que c'est... on emmagasine des choses, on est sans être, le mot peut-être sous l'emprise est un peu fort, mais est-ce que ça a été facile pour vous justement d'exister, de créer votre art, votre piano en sa présence?
C'est une bonne question. Je crois que c'est dans toutes les écoles, je pense surtout aux écoles des maîtres peinteurs. Je me souviens le titre d'une exposition au Louvre, je crois, la concurrence des grands maîtres autour de Tizian, comme vous dites Tizian. Tintoretto et tout ça, quand il venait d'une école de l'autre, d'abord il suivait son maître, puis il s'est libéré. Et comme dans la peinture, c'est dans la musique. Mais même quand on admire quelqu'un, un maître, un professeur, on est déjà, et surtout les jeunes, sont aussi des critiques sévères, et notamment sans indulgence, quand le maître commet une erreur, ou quand il fait une chose qui est fausse du point de vue historique, il s'en rend compte. Chez moi, j'ai vu que Fischer était parfait pour Mozart, mais en même temps, il était un romantique qui transformait un peu la sonorité de Mozart et son expression dans un romantisme qui, parfois, pour nous, les jeunes, allait trop loin. Donc, dans ce sens, j'ai suivi tout ce qui était bon et j'ai coupé le cordon assez tôt quand il s'agissait, par exemple, des cadences de Mozart. Fischer avait encore cette attitude romantique. La cadence doit être libre, elle ne doit pas suivre le style d'un concerto, d'une œuvre. Bien sûr, elle doit reconnaître les thèmes et le rythme d'un mouvement, mais elle doit être libre, et elle peut introduire des harmonies et surtout l'étendue du piano beaucoup plus étendue que celui de Mozart, parce que le piano aujourd'hui est plus puissant et a beaucoup plus de touches. Et là, je ne l'ai jamais suivi. J'ai déjà vu que les cadences de Mozart qui sont restées sont des véritables chefs-d'œuvre et que Mozart a pris la peine d'écrire une centaine de cadences. Ça veut dire, pour moi, la cadence, ce n'est pas une chose improvisée quelconque, mais qui doit suivre l'esprit de mon œuvre. Et là, j'ai essayé pendant toute ma vie, et surtout dans le concerto en ut mineur, d'où il n'existe malheureusement aucune cadence de Mozart. J'ai lutté pendant toute ma vie pour arriver à une cadence qui soit digne de l'esprit de Mozart.
Assez rapidement, vous avez été un peu une sorte de chercheur, vous vous êtes intéressé aux manuscrits, aux annotations de partitions, etc., comme vous l'avez décrit un peu au début, pour vous rapprocher encore plus de la partition. Est-ce qu'à un moment, vous avez l'impression d'être une sorte d'explorateur et vous avez aussi, ce qu'il faut préciser, c'est vrai qu'au début de votre carrière, dans les années 50, contrairement à aujourd'hui où toutes les versions des œuvres ont été enregistrées des dizaines, des centaines, voire des milliers de fois. C'était également le début des grands enregistrements, et certaines œuvres n'avaient pas été enregistrées des centaines de fois comme aujourd'hui. Donc, comment s'est passée cette partie de votre vie, pris entre d'un côté la volonté de rechercher, d'emmagasiner le plus d'informations, de connaissances autour des œuvres, et en même temps ce rapport, parlez-nous aussi un peu peut-être de ce rapport à l'enregistrement.
Bien, il y a des choses qu'on peut noter quand on est compositeur, d'autres qui nous échappent, une certaine liberté de rythme. Pensons à la valse viennoise avec ce 1, 2, 3, 1, 2, 3, un rythme qui flotte dans l'air, mais qu'on ne peut pas écrire dans les véritables valeurs. Et là, j'ai eu la grande chance, viennois, de suivre cette tradition vivante, de faire la bonne musique avec ces libertés qui sont inscrites, mais pas visiblement dans les partitions. Et c'était aussi Edwin Fischer qui nous a montré l'importance de reconnaître un manuscrit de Mozart. C'était lui qui était un des premiers à éditer des œuvres de Mozart dans des partitions qui sont restées jusqu'au jour actuelle, les meilleures partitions très fidèles à l'esprit, et je me souviens encore d'un passage dans la fantaisie Wanderer de Schubert où il nous a dit « Oh, j'ai trouvé dans le manuscrit de Schubert une note qui est fausse dans toutes les éditions, il faut jouer là, c'est un ré bécard et pas un ré dièse. » Et donc c'était aussi le premier qui m'a conduit à faire ces recherches.
Vous avez eu la chance de croiser également, on ne va pas faire toute votre carrière, mais des très grands noms, que ce soit Karajan ou Furt Wangler également. Quels souvenirs vous gardez par exemple de Furt Wangler?
C'était un peu comme, je ne dis pas un frère jumeau, mais un homme de la même qualité de Fischer aussi, quelqu'un qui cherchait à communiquer son sentiment le plus intime, son expérience de la musique, et qui avait le don magique de produire une sonorité inégalable parmi les grands chefs d'orchestre. Je les ai entendus tous et on reconnaît cette sonorité de Furt Wangler quand il dirige, plus naturellement dans cette expérience vivante que dans ces enregistrements qui sont tous imparfaits en vue de ce que on a vu, qu'on a vécu avec lui. Sonorité, la même chose avec Edwin Fischer, une sonorité magique de piano. On se disait, mais comment c'est possible? C'est le même piano que nous jouons tous et il n'a que 10 doigts comme nous et il produit ces miracles de sonorité avec toucher, avec pédale, avec imagination. Et parfois, on a eu l'impression qu'il pouvait faire un crescendo sur une seule note, ce qui physiquement sur le piano ne va pas, mais c'était peut-être hypnose. Et un peu la même chose avec Furt Wangler. Et Furt Wangler, c'était un créateur aussi. Il ne faut pas oublier qu'il était compositeur lui-même et il se considérait en première ligne compositeur et en deuxième ligne interprète. Ça veut dire quand quelqu'un fait la composition, il connaît la souffrance, cette exigence terrible d'arriver à la note juste et à une concentration de toutes ces milliers d'idées dans une seule œuvre. Je crois que c'était aussi ce qu'il a su communiquer quand il a dirigé, où Furt Wangler était aussi un excellent pianiste. On avait toujours l'impression que l'œuvre naît au moment qu'il le joue ou qu'il le dirige. Ce n'est pas l'interprétation, c'est la naissance qu'on ressentait. Et ça, c'était unique. Je crois qu'il y a eu peu d'expériences de ce genre. Parfois, quand un compositeur joue sa propre œuvre, je pense à Béla Bartók ou à Franck Martin, on a eu la même expérience. Naturellement, c'est bien simple, parce que si le compositeur joue soi-même, c'est plus évident qu'il est le maître. Mais pas toujours. Il y a une théorie que le compositeur, en face de sa propre œuvre, comme tous les autres interprètes, il doit chercher ce qui est dans la partition et à trouver le tempo juste. Ce que me communiquait Franck Matin, il disait, quand je dirige une œuvre que j'avais composée il y a 20 ans, je suis comme vous tous, je dois l'étudier.
De tous ces grands noms, Karajan, Maqueras, enfin, etc., est-ce qu'il y a une ou deux rencontres que vous placez un peu au-dessus, ou vraiment, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur cette vérité, sur ce genre de choses, où vraiment il y a eu vraiment des instants de communication avec certains chefs où vous avez senti que vraiment il se passait quelque chose de majeur?
Oui, j'ai joué avec centaines.
Oui, c'est pour ça que je ne voulais pas demander l'intégralité de la liste. Mais...
Alors, en première ligne, ce sont trois grands chefs de la tradition allemande. Et Karajan m'a fait une énorme impression, mais c'était un autre type. Furtwängler, il aurait pu être mon grand-père, m'a traité avec respect et pas, comment dire,
condescendance.
Tout à fait comme un jeune collègue. Il m'a demandé comment désirez-vous ce mouvement, votre tempo, l'équilibre entre piano. Karajan, il me donnait deux leçons de piano et il m'a fallu jouer comme Karajan le voulait, comme il était génial. C'était une très bonne leçon pour moi. J'ai appris une énormité de choses par lui. Mais ce n'était pas celui qui m'a inspiré le plus. Il y a eu deux autres, dont un est Joseph Krips, qui, viennois comme moi, était un chef génial et j'étais heureux de jouer sous sa direction avec l'Orchestre de Paris, le concerto de Franck Martin. Krips, c'était aussi l'incarnation de la bonne musique et du bon goût, et aussi cette recherche de la vérité. Krips jouait aussi très bien le piano, et il connaissait par cœur 50 opéras. Il a prouvé qu'il pouvait jouer n'importe quel opéra au piano en chantant toutes les parties, non seulement les parties des hommes, mais aussi des femmes. C'était une expérience inoubliable. Et une fois, mais c'était avec la partition qu'il a accompagné Kathleen Ferrier, cette chanteuse contralto inoubliable et qui, inégalable aussi. Et c'était dans une maison viennoise, il s'est mis au piano et c'était typique d'elle, elle a ôté ses souliers, ses chaussures, et elle a chanté Frauenliebe und Leben, accompagné d'une façon inoubliable, et c'était la plus belle version de toute ma vie. Alors, Krips, et lui aussi, il était un des premiers qui m'a reconnu et qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Il m'a invité à jouer sous lui quand il était chef à Londres, à San Francisco et à Vienne, bien sûr. Et l'autre, c'était Hans Knappertsbusch, une autre légende qui revit maintenant à cause de ses enregistrements. Et c'était une rencontre peut-être la plus profonde et la plus amicale, affectueuse, je dirais, avec lui. Nous avions le même agent de concert, Monsieur Martin Taubmann, je le prononce en autrichien, Taubmann, vous diriez. À la première rencontre, il m'a regardé un peu étonné, mais parce que j'avais l'air à 25 ans d'avoir 17 ans. Une chose qui s'est améliorée un peu. Aujourd'hui, je n'ai pas l'aspect de 25 ans. Mais après les premières notes, il était convaincu que j'étais son interprète. Il m'a invité pour plusieurs concerts où c'était possible d'avoir un soliste au piano. Et heureusement, il existe une très belle version du concerto L'Empereur de Beethoven, enregistrée à Hambourg en 1960, je crois. Et c'était vraiment pas seulement par sa mort que cette chaîne était interrompue. J'ai joué sous sa direction le 4e concerto de Beethoven, Mozart, le concerto en ré mineur. Et on savait bien que son rythme était différent de celui de Krips ou de Furtwängler. Il préférait des tempi moins rapides, mais tellement convaincants qu'on ne sentait pas une lenteur. Et je dois dire donc que dans ce concerto Empereur, je me sentais complètement à l'aise avec un premier mouvement un peu plus modéré que je l'ai joué, disons, sous Scherchen ou avec d'autres chefs.
Quand on prononce votre nom, il y a tout de suite le sujet d'instruments modernes, instruments anciens. Vous avez été un précurseur dans ce domaine. Vous passez du piano dit moderne au piano forte. Vous l'avez fait à une époque où c'était quelque chose d'inédit, où les gens un peu choisissaient leur camp. Il y a même eu dans les années par la suite, même les années 60, 70, où vraiment il y avait un peu deux écoles. Maintenant, les gens sont peut-être un peu plus ouverts. Mais si on essaye de revenir à l'origine de tout ça, comment ce sujet de l'instrumentation est arrivé en vous? C'est venu progressivement? Ça s'est imposé à vous brutalement? Vous avez une révélation?
Un peu tous les trois, graduellement, mais aussi avec une révélation. Tout d'abord, on était convaincus que le piano moderne, c'est Le comble, c'est la plus grande perfection. Et que tout ce qui précédait, c'était une évolution nécessaire, mais seulement pour le musée, que ça n'avait aucune valeur. Et avec cette opinion, j'ai fait mes études de piano, et même quand j'ai joué Bach sur le piano moderne, ou Mozart, Haydn, je me sentais bien, et la vue générale, c'était si un Bach ou un Beethoven avaient connu nos instruments parfaits, ils auraient jeté dans la plus belle leur clavecin ou leur pianoforte pour jouer sur un Bösendorfer ou Steinway moderne. Mais il y avait toujours cette curiosité, parce que ça, c'était évident, on savait, c'était écrit pour un autre instrument, avec une tendue, avec une sonorité différente, avec des harmoniques beaucoup plus claires, avec des couleurs qui ne sont plus faisables sur le piano moderne, ou presque pas. Encore une fois, c'était Edwin Fischer qui ne jouait jamais le piano d'époque, mais qui nous disait, mais quand même, il faut songer au clavecin, à l'orgue, quand on joue les œuvres de Bach, et c'est lui-même qui l'a fait, il a donné des couleurs d'orgue ou de clavecin à certaines œuvres. Je pense à la transcription de la grande fugue pour orgue en mi bémol majeur, Bach Busoni, qu'il joue comme c'était un orgue, et parfois on a l'impression que le piano là dépasse la qualité de l'orgue, ou le choral prélude Ich rufe zu dir, je t'appelle Jésus-Christ, Ich rufe zu dir, Herr Jésus-Christ, où sa version est inégalable et dépasse même celle de Dino Lipatti, un autre géant du piano. Et voilà. La révélation est venue grâce à une claveciniste et fortepianiste viennoise, Isolde Algrim, une femme géniale qui était dans la meilleure époque de sa vie, quand elle avait 20 ans plus que moi, et elle donnait des concerts privés für Kenner und Liebhaber, pour des amateurs et dilettants, où il a fallu payé, mais nous, les jeunes pianistes, nous étions permis de venir sans payer. Et elle jouait d'abord sur son clavecin, pas un clavecin historique, un clavecin reconstruit, dirais-je, du XXe siècle, les œuvres de Bach, une révélation que j'ai réalisée dans mon premier enregistrement des parties, surtout dans la sixième. J'ai essayé de donner cette sonorité riche avec les registres qui changent, cette sonorité moitié orgue, moitié clavecin sur un piano moderne. Et enfin, elle jouait l'intégrale de Mozart, tout de mémoire, sur un merveilleux pianoforte de l'époque, pas une réplique, mais un original. Et là, c'était aussi un coup de foudre, je me disais. Et j'étais avec mon ami Jörg Demus, mais voilà, ça y est, maintenant on comprend pourquoi Mozart préfère ce registre ou ces ornements. Ça se joue sans difficulté, même les traits, les groupettes, les tris, les plus fins. Et aussi que la partie grave, les notes basses du piano étaient préférées, parce que surtout dans le registre, la moyenne et basse, ce piano est plus clair et dépasse dans son beauté, dans ce que le piano moderne nous puisse donner. Mais ceci dit, je trouve qu'on peut jouer n'importe quelle musique sur n'importe quel instrument. Et il faut voir l'attitude des compositeurs eux-mêmes. Bach, qui jouait sur n'importe quel instrument, qui était un des premiers pour faire la propagande pour l'instrument pianoforte, qui a même vendu des pianofortes ou fortepiano dans son époque, et qui jouait pour le roi Frédéric de Prusse sur un pianoforte et pas sur un clavecin. Et Bach inventait même des instruments, une viola. Il était toujours en faveur des nouveautés. Mais ça va trop loin. En tout cas, il y a certaines choses qui arrivent mieux sur le piano moderne et d'autres sur le piano d'époque. Et là, j'ai eu la chance de trouver un directeur du musée de musique de Vienne, le docteur Luitlen, qui nous a accueillis à bras ouverts. Et je dis nous parce que j'étais avec mon ami Demus et on a fait des concerts là. Mais la transition était très difficile. Au début, jouer sur un instrument d'une telle finesse m'a fallu 2-3 semaines pour m'habituer à ne voir presque rien sous les doigts, pas ces touches qui répondent seulement quand on joue avec une certaine force. Aujourd'hui, dans 2 minutes, je peux changer d'un instrument à l'autre parce qu'entre-temps, j'ai acquis une belle collection et la dernière acquisition, j'en suis très fier, c'est un pianoforte Anton Walter original. J'en ai déjà ici une très bonne copie, mais l'original dépasse, c'est comme dans la peinture, dépasse de loin en beauté, en clarté et même en volume ce que les meilleures copies nous donnent.
Par la suite, dans les années 60, quel regard vous avez porté un peu sur la révolution baroque? Et vous qui précédemment avez commencé à toucher les instruments d'époque qui étaient après, quel regard vous avez porté sur ça?
Moi, là, j'ai un regard romantique. Pour moi, pourquoi on dit romantique? Quelqu'un qui donne toute son émotion, même parfois trop, qui veut...
Est-ce que vous étiez intrigué? Est-ce que vous aviez eu rejet par cette révolution baroque ou justement le romantique que vous étiez à ce moment-là?
Oui, mais en même temps, j'ai fait mes recherches indépendantes et on voit mes publications qui sont nées de cette recherche. J'ai découvert, et je me place un peu contre cette façon de jouer la musique baroque d'une façon rigide et avec des règles qui ne soient jamais changées. Je viens de publier un article sur un ornement, le mordant supérieur de Bach, Praltril, qui était joué d'une façon fausse depuis Wanda Landowska, qui était la créatrice de ce que nous appelons les baroqueux, une femme géniale, mais qui a aussi commis des erreurs. Donc, j'ai gardé ma distance en même temps admirant cette découverte et cette recherche des manuscrits et des œuvres qui sont restées inconnues et c'était très injuste. Je pense non seulement à les œuvres inconnues, moins connues de Bach, Händel, mais par exemple le père Alessandro Scarlatti, c'est un génie. Il a écrit des opéras qui sont au même niveau de Händel, des cantates et même une fugue pour clavecin ou orgue en mi mineur avec des syncopes. On croyait d'être au XXe siècle. Et là, cela se doit aux gens qui ont fait la découverte de musique baroque. Et naturellement, je suis heureux quand je peux jouer un concerto de Mozart ou de Bach sur un piano d'époque.
Est-ce qu'il y a vous avez dit que vous aviez effectivement des centaines, des milliers d'enregistrements, des bandes même de live que vous avez, etc., plus tout ce que vous avez enregistré en studio. Est-ce qu'il y a encore des œuvres que vous aimeriez enregistrer? On vous sent avide de plein encore, habité par une passion, une fougue, etc. Est-ce qu'il y a encore des choses là que vous auriez envie d'enregistrer?
Ah oui, ça existe et ça c'est le défi. Pour ça, j'aimerais encore vivre quelques années plus que mon âge. Numéro un, ce sont les variations Goldberg de Bach. Et mon rêve, c'est de les jouer sur 3 instruments, sur le clavecin pour lequel ils étaient composés. J'ai dans ma collection un excellent clavecin d'époque idéal pour cette musique parce qu'il a une sonorité chantante. On peut chanter sur cet instrument quand on a le toucher juste. Et bien sûr, sur le pianoforte, qui est aussi un instrument de l'époque de Bach, mais aussi, sans hésitation, sur le piano moderne, où on peut rendre la 25e variation d'une façon encore plus émouvante que sur n'importe quel instrument d'époque.
Quelque chose comme ça, justement, est-ce que ça veut dire que finalement, ce serait trois œuvres différentes ou... C'est une façon de naviguer entre cet exemple-là, par exemple, de dire, voilà, j'aimerais offrir ces trois versions sur trois instruments de la même partition.
Oui, ça peut aussi arriver dans la musique de notre époque. Quand j'enregistre Schubert ou joue sur les meilleurs pianos de notre époque, je trouve que mon Bösendorf de 1923 donne une sonorité plus chaleureuse, mais moins clair que mon excellent Steinway. Et j'ai aussi l'intention de faire deux versions Steinway-Bösendorf et la même chose avec les instruments d'époque. Ce qui est important, vous n'allez pas demander, est-ce que l'interprétation change selon l'instrument? Par exemple, le tempo, la vitesse ou la lenteur. À mon avis, l'expression musicale ne change pas. C'est-à-dire, je n'éprouve aucune différence d'émotion si je joue sur un piano d'époque ou sur un piano moderne. Et mon interprétation changera dans un sens que je cherche toujours la meilleure sonorité que l'instrument me peut donner. Bien sûr, le phrasé, l'articulation sera plus clair sur l'instrument d'époque et le chant sera plus chantant sur le piano moderne. Donc là, mais sans changer l'essentiel de mon interprétation.
Est-ce que c'est une façon d'avoir trois chances de toucher à la vérité au lieu d'une seule?
Voilà, vous dites une très bonne chose. Il n'existe qu'une seule vérité, mais chacun doit trouver sa propre vérité, mais elle ne doit pas être en contraste ou le contraire de la vérité de d'autres. C'est la même chose avec le tempo juste. Mozart dit dans une des célèbres, la chose la plus importante dans la musique, c'est le vrai tempo. Et en parlant d'une élève jeune, il dit elle ne saura jamais faire la chose juste, la plus importante de la musique, le vrai tempo. Et voilà, Cripps, dans ses conférences, il a dit que moi, Cripps, j'étais jeune, je vivais dans la période des plus grands chefs d'orchestre qui sont restés légendes, mais dont malheureusement, c'était trop tôt, on ne connaît pas les enregistrements, c'était Arthur Nikisch, c'était... Franz Schalk, Ferdinand Loewe, et aussi, notamment, un chef génial, Richard Strauss, il faut dire, oui. Et il disait, mon maître Fischer, je crois que c'était Weingartner aussi, un très grand chef, dont on a la première version jamais enregistrée de la 9e symphonie de Beethoven. Weingartner lui disait, mais je ne comprends pas qu'est-ce que les gens font comme discussion. Tempo, il n'existe aucun problème, il n'a qu'un seul tempo, le tempo. Et c'était une inspiration pour Cripps, mais il a dit, et c'est un peu comme ce que vous dites de la vérité, chacun avait le vrai tempo, mais il était très différent de l'un à l'autre.
Merci beaucoup, Paul Badura-Skoda.
Un plaisir, Marc.
cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.